Chapitre 9e. Comment la belle Doralice eut une attaque de nerfs et comment un Gascon refusa de trinquer avec un roi. La caravane se remit bientôt en marche et quelques jours après arriva sous les remparts de Grenade, la ville aux 300 tours, paradis des infidèles. Le soleil couchant dorait de ses derniers rayons les mosquées et les minarets. On voyait étinceler au loin, dans la lumière rose du soir, les neiges éternelles qui couvrent le sommet du Mulay Hassan, la plus belle de toutes les montagnes espagnoles. Le silence le plus profond régnait dans la petite troupe du comte d'Angers. Corisande pensait à l'infortunée Doralis qu'elle venait délivrer. Roland pensait à Corisande. Et Rimbaud, qui en qualité de poète et de philosophe, ne pensait à rien, n'était occupé que du paysage. Cependant, il ne laissa pas d'être étonné quand il vit Roland se diriger du côté de la porte la plus voisine de la ville, comme s'il s'attendait à entrer dans Grenade sans combat. « Seigneur comte, quel est votre dessein ?»« Mon dessein, répliqua Roland, est d'entrer dans Grenade et de délivrer Doralis. »« Et Ferragus ?»« Eh bien, Ferragus voudra s'y opposer. Il tirera son épée, je tirerai la mienne, je lui couperai le cou, et je rendrai sa couronne à la fille du vieux Stordilan. » « Vous savez, dit Rimbaud, que Ferragus a près de lui 20 000 chevaliers, des plus braves qui soient dans l'univers. Je le sais. Et vous croyez qu'ils vous laisseront tuer leur chef sans résistance ?»« Ma foi, dit Roland, je ne leur défends pas de résister. S'ils veulent combattre, qu'ils viennent, fussent-ils 100 000, et je leur passerai sur le ventre. Ne suis-je plus Roland ?» Rimbaud vit bien qu'il n'avait pas touché la corde sensible. Il se tourna du côté de Corisande. « Madame, est-ce que vous allez le suivre dans la mêlée ?» Mais la princesse de Grenade ne doutait jamais de ce qu'avait dit Roland. « Il dit qu'il passera, » répliqua-t-elle, « et pour moi, je le crois, n'a-t-il pas passé à Saragosse ?»« Ils sont tous deux fous, » pensa Rimbaud, « mais je les sauverai de leur propre folie. »« Seigneur comte, » dit-il tout haut, « je sais que rien n'est impossible à votre courage, mais souffrez que je vous fasse observer qu'il est tard, que vous n'entrerez pas avant la nuit dans Grenade, et qu'il faudra vous battre sans souper, ce qui est la condition la plus fâcheuse pour un guerrier. Ajoutez que la nuit, qui est sans lune, cachera vos exploits, et que votre ennemi, quand vous l'aurez vaincu, sera bien aise de dire que vous l'avez surpris, et que, sans trahison, vous ne seriez jamais venu à bout de lui. « Parbleu, dit Roland, tu as raison. Restons ici, et plantons nos tentes. Demain, au point du jour, nous commencerons la bataille. » « Pour moi, ajouta Rimbaud, qui n'est pas les mêmes raisons de coucher à la belle étoile, j'entrerai dès ce soir et seul dans Grenade. J'observerai l'ennemi et je vous rendrai demain compte de ses mouvements. Va donc et reviens vite, dit le comte d'Angers. Rimbaud se hâta de prendre les devants et entra dans Grenade. La nuit était déjà venue, mais une foule de lumières étincelait aux fenêtres et toute la ville était en joie. On célébrait le mariage du terrible Ferragus avec l'infortunée Doralis. Suivant la coutume des temps anciens, qui valait bien la nôtre, Rimbaud alla demander l'hospitalité au palais même de Ferragus. 500 musiciens qui soufflaient dans des cuivres ou qui frappaient sur des tam-tams étaient chargés d'entretenir la joie publique. 50 échansons remplissaient les coupes des musiciens de boissons exquises rafraîchies dans la neige du Mulay Hassan. 300 poètes célébraient en vers magnifiques le courage et la générosité de Ferragus, les grâces et les vertus de Doralis. Ils récitaient tous ensemble leurs vers avec tant de chaleur que les spectateurs portaient leurs mains à leurs oreilles pour ne plus entendre ce bourdonnement. Rimbaud traversa leurs rangs, tout assourdi de ce tumulte. Il monta le grand escalier du palais, au bout duquel était le jardin du roi Stordilan, le plus beau du monde entier. Là, sur un gazon vert, était dressée la table du banquet. 200 émirs, des plus nobles de toute l'Espagne, étaient assis, magnifiquement vêtus, à droite et à gauche de Ferragus et de Doralis. La princesse, un peu pâlie par le chagrin d'avoir perdu son père et son trône, et peut-être aussi par la frayeur que lui inspirait son nouvel époux, levait de temps en temps vers le ciel ses beaux yeux noyés de larmes. Le farouche sarrasin, le visage à demi couvert d'une barbe noire et épaisse, la regardait avec un mélange d'amour et de brutalité, et sans se soucier du Coran ni du prophète, il buvait les vins de Shiraz dans une coupe de diamants, présent du calife de Bagdad. Rimbaud s'approcha de lui, sans audace et sans crainte, comme un hôte qui est sûr d'être bien accueilli. Il se prosterna le front contre terre devant Doralice et attendit pour parler qu'on l'interrogeât. « D'où vient ce drôle ?» demanda Ferragus. « Seigneur, dit modestement Rimbaud, je ne suis pas un drôle, mais un poète. J'ai entendu célébrer votre générosité par toute l'Espagne, et comme les gens de ma profession sont toujours besogneux, j'ai voulu vous offrir mon épithalame. Relevez-vous, dit Doralice d'une voix douce. Le moment est mal choisi pour chanter un épithalame. Je porte encore le deuil de mon père. À ce souvenir, son cœur se gonfla et ses larmes coulèrent en abondance. Tous les émirs furent attendris, et Ferragus lui-même ne chercha d'abord qu'à la consoler. Mais bientôt, sa férocité naturelle reprit le dessus, et il s'écria d'une voix plus forte que les mugissements d'un taureau. « Le reproche maudit me suivra-t-il donc toujours ?»« Ventre Mahom, qu'on m'apporte ici le crâne du vieux Stordilan. Je veux boire dans ce crâne à mon bonheur nuptial. » À ces paroles, toute l'assemblée frémit, et Doralice tomba évanouie entre les bras de Rimbaud. Au même instant, on apporta le crâne du roi de Grenade, qu'un artiste habile avait taillé en forme de coupe. Ferragus le remplit lui-même de vin et but. Puis il le fit porter autour de la table, afin que chacun des émirs qui étaient présents suivît son exemple. Aucun d'eux, sous l'œil de Ferragus, n'osa refuser cet honneur. Au fond, tous étaient saisis d'horreur, Rimbaud lui-même pâlit. Ferragus s'en aperçut. « Eh bien, dit-il, on t'oublie, remplis la coupe et chanson, et que ce poète boive à mon bonheur et à celui de ma belle fiancée. » Les chansons obéit, mais Rimbaud repoussa la coupe. « Chien, fils de chien !» s'écria Ferragus, les yeux étincelants de colère. « Crois-tu me braver impunément ?»« Seigneur, dit le poète avec fermeté, je boirai volontiers au bonheur de la reine votre épouse et au vôtre, mais non dans cette coupe impie. » Et comme Ferragus levait sur lui son cimeterre, « Frappe, si tu l'oses, continua Rimbaud, on ne peut tuer un homme qu'une fois. » Ses yeux hardis et calmes étonnèrent le féroce sarrasin. Il remit son cimeterre au fourreau et, tendant la main au gascon, il lui dit « Quel est ton nom ?»« Rimbaud. »« Eh bien, Rimbaud, tu me plais, car tu es un brave. Veux-tu être mon ami ?»« Je ne serai jamais l'ami, répliqua le poète, d'un homme qui boit dans le crâne de son ennemi et qui ose insulter une femme sans défense. » À cette réponse, le sang monta aux yeux du sarrasin. Il voulut parler, sa voix s'arrêta dans son gosier. Rimbaud vit bien qu'il était prudent de faire retraite. Il se retira lentement, l'œil fixé sur Ferragus, et prêt à se défendre jusqu'à la mort, mais celui-ci le laissa partir sans l'inquiéter. « Diable !» pensait Rimbaud en sortant du jardin. « Voilà un seigneur bien difficile à vivre. Boire dans le crâne de son beau-père, peste, et sous les yeux de sa femme. Je n'augure pas bien de cette noce. Elle a un air d'enterrement. Le mari fait la grosse voix. La femme lève les yeux au ciel. Ah, que je me sais bon gré de n'avoir pas épousé Églantine. » Comme il faisait tout haut cette réflexion, il se sentit tout à coup saisi par le bras si vivement et si fortement qu'il poussa un léger cri de douleur. « Seigneur poète, dit une voix de femme, déguisée mais douce et distincte, la reine Doralice vous prie de venir dans son appartement. « Oh oh !» pensa Rimbaud. « Est-ce qu'elle voudrait déjà se consoler d'avoir épousé Ferragus ?» Et il se mit à friser sa moustache avec ses doigts d'un air qui n'annonçait rien de bon pour le fils du roi Marsile. La femme qui avait parlé avait un masque sur le visage. Elle prit la main du gascon et commença à le conduire à travers 12 ou 15 salles à peine éclairées. Sa taille était svelte et sa démarche gracieuse. Elle marchait avec la légèreté des nymphes et la dignité des déesses. Rimbaud ne tarda pas à s'en apercevoir. « Parbleu, pensa-t-il, je n'ai que faire d'aller chez la reine Doralice. Je me contenterai bien de causer avec la suivante. « Belle dame, dit-il tout haut, où me conduisez-vous » Sa conductrice garda le silence et marcha plus vite. Le poète essoufflé avait peine à la suivre. Au moins, si vous daignez lever le masque qui cache à tous les yeux votre beauté divine. Un grand éclat de rire l'interrompit. Où donc ai-je entendu rire ainsi? Pensa-t-il. Cela est étrange. Dieu, quel souvenir! Ah, perfide Églantine! Il n'eut pas le temps de pousser plus loin ses réflexions. Une porte s'ouvrit, et il aperçut la belle Doralis, assise et entourée de ses femmes. Doralis fit un signe, et toutes les femmes disparurent, excepté celle qui avait son masque et s'assit sur un tapis aux pieds de la princesse. Le poète s'assit à son tour et attendit les questions de Doralis. « Rimbaud, dit-elle d'une voix languissante, je sais que vous m'avez défendu tout à l'heure contre ce monstre qui se croit mon époux. Je vous en remercie. » « Je n'ai fait, dit le Gascon en s'inclinant, que mon devoir. Il n'est pas un chevalier de France qui n'eût tiré l'épée pour votre service. »« Hélas, dit-elle, nous sommes bien loin de la France. »« Vous en êtes plus près que vous ne pensez, répliqua Rimbaud. » « Que dites-vous ? » s'écria Doralis. « Quoi, j'aurai des amis ?»« Dès demain, madame, vous serez délivrée, » répondit le Gascon. « Le contrôlant est à une lieue d'ici avec votre cousine, la belle Corisande. Dès demain, il provoquera Ferragus et le tuera, car Dieu est juste et ne vous laissera pas aux mains de ce brigand. »« Dites-vous vrai ?» demanda la princesse. Rimbaud raconta la rencontre du comte d'Angers et de la belle Corisande. Il dit les exploits du chevalier dans Saragosse et son départ pour Grenade. Doralis se jeta à genoux et remercia Dieu. « Pourvu qu'il arrive à temps, » s'écria-t-elle. « Jusqu'ici, j'ai su éloigner le sanguinaire Ferragus, mais je crains tout de sa violence. Résistez jusqu'à demain, madame, et vous serez sauvée. » Au même moment, la voix de Ferragus se fit entendre dans la salle voisine. Doralis et la suivante pâlirent de frayeur. Rimbaud, qui avait gardé son sang-froid, se roula dans un tapis et dit à la princesse « Feignez une attaque de nerfs, et je réponds de tout. »« Hélas, dit la malheureuse princesse, je n'aurai pas besoin de feindre, sa seule présence glace le sang dans mes veines. » Cependant, avec une adresse et une promptitude merveilleuses, elle commença à se tordre sur le tapis et à pousser des gémissements. La suivante, toujours masquée, la secondait de son mieux, et appelait toutes les autres femmes de service à son secours. Celles-ci se hâtèrent d'accourir, et le terrible Ferragus parut en même temps qu'elle sur le seuil de la chambre. À sa vue, les cris, les gémissements et les contorsions redoublèrent. « Que veut dire ceci ? » dit-il avec colère. « Oh, princesse infortunée ! » s'écria sans lui répondre la suivante masquée. « Malheureuse Doralis, faut-il que vous soyez victime ? » « Encore une fois ?» dit Ferragus, « que signifient toutes ces lamentations ?»« Hélas, seigneur, » reprit la suivante, « à peine la princesse a-t-elle quitté le jardin qu'elle est rentrée tout éplorée dans son appartement. Elle a versé des torrents de larmes sans que rien ait pu en tarir la source. Je ne sais ce que vous... »« Silence !» cria Ferragus d'une voix terrible. Et il s'approcha de la princesse de Grenade. Mais celle-ci, en le voyant, se leva debout et le regardant avec horreur, lui ordonna de sortir. « Mais, » dit le fils de Marsile, « par grâce. »« Seigneur, » interrompit l'officieuse suivante, « sortez. Ma maîtresse a une attaque de nerfs. En cet état, elle est capable de tout. »« Par la barbe d'Ali, » dit Ferragus, « voilà une attaque de nerfs qui vient bien mal à propos. » Mais toutes les femmes qui s'empressaient autour de Doralis crièrent si haut et si longtemps que sa présence était la seule cause du mal de la princesse, qu'il n'osa résister et partit. Dès qu'il eut fermé la porte, Doralis s'assit tranquillement et congédia de nouveau ses femmes, moins celle qui était masquée et qui paraissait être sa confidente. En même temps, le Gascon se dégagea du tapis dans lequel il s'était roulé et s'assit de nouveau devant la princesse. « Rimbaud, dit Doralis, après un instant de silence, vous êtes musicien ? Oui, madame. Eh bien, chantez-nous quelque chose. Voulez-vous, madame, que je vous chante les malheurs de la sultane Fatima ? Qui fut surprise dans le jardin de Bagdad avec le jeune prince de Perse et qui payait de sa vie ses imprudentes amours. « Non, » dit Doralis, « l'histoire de la sultane Fatima me fatigue. Dis-moi plutôt la tienne. »« Je n'ai rien à raconter, madame, » répondit Rimbaud. « Un poète n'a point d'histoire. »« En es-tu bien sûr ?» demanda Doralis en riant. « On dit que tu as aimé quelquefois. » Le front du poète se rembrunit. « Une seule fois, madame, » répondit-il. « Et j'ai fait le serment de n'aimer plus jamais. Tu as été trahi ?»« Oui, madame. » Les yeux de la suivante de Doralis étincelèrent sous son masque. « Bah, » dit Doralis en souriant, « peut-être as-tu été trompé par les apparences ?»« Je suis sûr de la trahison, » répliqua le poète. « Et comment se nommait la perfide ? continua Doralis. Églantine, madame, et son nom vivra dans mes vers aussi longtemps que les enfants des hommes honoreront la poésie. » À ces mots, la princesse se pencha vers la dame masquée et lui dit tout bas quelques mots. Celle-ci ôta son masque et découvrit aux yeux éblouis du poète une des plus belles têtes blondes qu'ait jamais contemplé le soleil. « Églantine ! » s'écria-t-il. « Oui, Églantine elle-même, » dit la jeune dame. « Églantine, que vous avez trahie et qui vous pardonne. Églantine, qui vous a gardé sa foi et qui n'aimera jamais que vous. » Les deux amants tombèrent dans les bras l'un de l'autre sans autre explication. Doralis riait de son ouvrage. « Quoi ? » dit-elle, « vous vous aimiez et vous vous appeliez perfide ?»« Madame, » dit Églantine, « écoutez l'histoire de mes amours et jugez-moi. » Histoire d'Églantine et de Rimbaud. « Vous savez, madame, que je suis fille de l'émir de Cuenca. Ma mère mourut en me donnant le jour, et mon père n'épargna rien pour me rendre digne du rang où j'étais appelé par la naissance. J'avais 16 ans à peine, lorsqu'un jeune homme parut à la cour de mon père et commença à m'aimer. J'ai la faiblesse de l'écouter, et j'en suis aujourd'hui bien puni. L'ingrat est sous vos yeux. « Moi, ingrat ? » dit Rimbaud en se récriant. « Moi, qui l'aimerais jusqu'à la mort ? » Chut ! Dit la princesse. « Vous vous justifierez plus tard. Laissez parler, Églantine. » La jeune fille reprit son récit en ces termes. « Cependant, l'amour ne me fit pas oublier ce que je devais à mon père et à la vertu. J'aimais Rimbaud. Je lisais ses vers avec transport. Je recevais ses lettres et ses bouquets. Je ne pensais qu'à lui. Je voulais l'avoir pour époux, mais le sort en avait décidé autrement. » Ici, Rimbaud poussa un profond soupir. « Cependant, continua la belle Églantine, son audace croissait avec ma faiblesse. Bientôt il osa me proposer un mariage secret, je le repoussai bien loin. Puis un enlèvement, je demandai à réfléchir. Pouvais-je abandonner mon père, déjà vieux et sans autre enfant que moi ? En attendant, tous les soirs, je recevais l'ingrat dans une allée de sycomores qui bordait le jardin du palais de l'émir. Un soir, il ne vint pas. À cet endroit, Églantine s'interrompit et se couvrit les yeux avec son mouchoir. « Il était infidèle ?» s'écria Doralis. « Oui, madame. »« Oh, le perfide !» J'appris, continua Églantine, qu'il venait d'adresser des vers à la comtesse Barberine, femme du palatin de Hongrie, et qu'il lui jurait un amour éternel. « Je l'avoue, » répliqua Rimbaud. Mais on m'avait averti qu'un jeune chevalier italien, neveu de l'empereur de Constantinople, vous faisait une cour assidue. Je crus punir votre perfidie. Je lui écrivis, continua Églantine, de ne plus reparaître devant mes yeux, et l'ingrat n'obéit que trop bien à mes ordres. 6 mois après, mon père mourut, et je m'as cherché un asile à la cour du roi Stordilan. Vous avez eu la bonté de faire de moi votre confidente et votre amie, et vous pouvez témoigner de ma fidélité à mes premières et seules amours. « Oh !» s'écria Rimbaud, « ce témoignage est inutile, et je demande pardon de mes crimes. Églantine, je t'aime !» La nuit se passa tout entière dans ces conversations et ces serments d'amour. Quand le jour parut, Doralis fut la première à presser Rimbaud de rejoindre le comte d'Angers. Le poète quitta, bien à regret, la belle Églantine et sortit sans bruit du palais.